Il est 17h25, on passe à la Data Room. Vous avez l'un et l'autre choisi un chiffre, une publication que vous souhaitiez commencer. On commence avec vous, Jean-François Robin. 253 milliards d'euros, ce sont les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine.
Oui, j'ai trouvé que ce chiffre un peu intéressant, hein, de la visite du Premier ministre allemand en Chine, qui essaie un peu de raviver la flamme entre les deux pays. Et on voit que la Chine est redevenue, hein, c'est toujours une petite compétition entre la France pour être le premier partenaire commercial de l'Allemagne, les États-Unis et la Chine. Ça y est, c'est de nouveau la Chine. Mais c'est intéressant à plusieurs égards. Un, la Chine est le premier partenaire de l'Allemagne. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit bien, Étienne le disait juste avant, la guerre commerciale, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait des annonces de guerre commerciale du monde qui se ferme à lui-même. De miser finalement sur le commerce extérieur avec la Chine, c'est quand même un vrai pari. Après, celui manqué d'avoir dépendu du gaz russe pour produire ses biens industriels. Et donc, je me demande si ce n'est pas un pari un peu perdant quand même de nouveau de l'Allemagne, d'essayer de continuer à augmenter ses échanges avec la Chine, alors que le monde se ferme, que la Chine elle-même, hein, on disait, ce qu'est en train de faire Biden, imaginez ce que fera Trump, hein, il parle de taxes à 60%, donc évidemment on aura une guerre commerciale avec l'Europe, hein, même 10% de taxes sur les produits européens, donc ça concernera les produits allemands. Donc on est vraiment sur une économie hyper tournée vers l'extérieur, et notamment la Chine, et la Chine a annoncé typiquement, aujourd'hui encore on apprend que finalement les téléphones d'Apple, les téléphones sont interdits dans tous les bureaux, parce que ça pourrait être un logiciel espion caché là-dedans. Donc on voit bien que le monde est en train de se fermer l'un à l'autre. Enfin, le monde se ferme globalement. Et donc, quelque part, je trouve que c'est très intéressant de voir une Allemagne qui est en train de dépendre de la Chine et que le monde se ferme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit plutôt qu'on est sur des bouleversements qui ne marchent pas très bien pour l'économie allemande. Hein. C'est, le FMI l'a dit, ça va être l'économie qui va le moins performer cette année. Et donc, le pari qui est fait, pour l'instant, n'est pas du tout gagnant. Et compte tenu de ce que je disais sur la démondialisation et la guerre commerciale qui, quoi qu'il arrive, même si Biden reste, elle continue. Et si c'est Trump qui arrive, c'est pire. C'est pas super, super perspective pour l'économie allemande, je pense, de ce point de vue-là, en tout cas.
Avec des conséquences très politiques. On voit bien que l'Allemagne est opposée lorsqu'il s'agit de taxer les panneaux solaires chinois, qui sont 4 fois moins chers que ceux qu'on produit en France. Pareil, position réservée de l'Allemagne sur les voitures chinoises et la question d'une taxe carbone aux frontières.
Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps, on a eu le premier BYD, c'est-à-dire qui a livré 3000 voitures chinoises électriques qui a débarqué en Allemagne. Tout d'un coup, ils se sont dit, mince, on est vraiment attaqué sur notre marché aujourd'hui, et puis ça va continuer. Et donc, il y avait une espèce de wake-up call du côté allemand, de se dire, bon, en fait, ça sert à rien trop qu'on s'oppose aux taxes, parce que ça va être une vague trop forte pour nous, on ne va pas y gagner. On voit très bien que les parts de marché ont été divisées par 10 quand vous voyez des Volkswagen, des Mercedes sur l'électrique. 90% des voitures électriques aujourd'hui vendues en Chine sont faites par des Chinois. Et donc, ils sont en train doucettement de se faire sortir de ce marché-là, à la fois commercialement et sans doute aidés par une certaine forme de dumping, puisque c'est ce qu'a l'air de penser la Commission européenne avec de bonnes raisons à cela. Donc voilà, on voit bien quand même que les Allemands sont en train de naviguer entre deux eaux. Ils n'ont pas choisi, et je trouve que ce chiffre-là montre bien l'énorme dépendance de l'Allemagne au commerce mondial qui se ferme, et à la Chine qui là-dedans est peut-être le parangon de la fin du monde, de la mondialisation telle qu'on l'a connue.
Ouais, c'est ce que vous disiez, l'Allemagne a beaucoup plus à y perdre, hein, si le monde se déglobalise et si on réduit nos...
C'est vraiment le symbole du pays ouvert sur les biens commerciaux et sur les échanges de biens avec des pays comme la Corée du Sud, etc. Mais l'Allemagne en Europe, on voit bien que c'est un peu je dis pas l'homme malade de l'Europe, parce que c'est toujours pareil, on sous-estime toujours les capacités de rebond de l'Allemagne, mais n'empêche que c'est, ils font moins 0,3 quand on fait 0,9 l'année dernière, ils vont faire plus 0,2 plus 0,3, on fera un petit 1% en France. Donc quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure.
Geoffroy Lenoir, votre data room à vous. 220 points de base, c'est l'écart de taux, le spread entre la dette allemande à 10 ans et son équivalent américain.
Oui, alors je voulais mentionner ce chiffre-là parce qu'on en parlait à travers les banques centrales, les prévisions en termes de baisse de taux. Mais en fait, ça se caractérise aussi sur les taux longs, sur la partie à 10 ans. Et on a un niveau d'écart entre le taux américain à 10 ans et le taux allemand à 10 ans qui retouche des niveaux pré-Covid. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'était les niveaux à peu près qu'on avait fin 2019. Donc 220 points de base. Donc pour resituer, on est autour des 4,65 autour du 10 ans américain et 2,45 autour du 10 ans allemand. C'est vrai que c'est une zone assez élevée arrivé historiquement, si on regarde les points hauts qu'on a connus, qu'on a touchés dans le passé, c'était plutôt 2018, et on revient justement à cette période de guerre commerciale avec Donald Trump, où on avait atteint un spread, une marge, donc un écart entre ces taux-là de 280 points de base. Donc on n'en est pas là, mais c'est vrai que ça montre qu'il y a cet écart qui est assez symptomatique de la différence de dynamique entre les États-Unis et l'Europe, et la différence en termes d'anticipation de politique monétaire, que ce soit côté Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne. Donc, c'est sûr qu'on a une prime, on va dire, de liquidité côté Allemagne, vu qu'on a un taux français qui est à 3% hein, autour, donc le spread est moins élevé. Mais on a quand même cet écart qui est matériel. Il faudra voir justement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si cet écart aura vocation encore à s'élargir ou au contraire à se resserrer. Mais ça, on verra en fonction des prochaines données macroéconomiques de croissance et d'inflation.
Là, vous faites une comparaison avec la référence allemande, le Bund à 10 ans. Évidemment, le marché de la dette, il est éclaté en Europe, donc oui. On n'a pas tout à fait le même spread si on regarde avec le 10 ans français ou le 10 ans italien.
Oui, c'est ce que je disais par rapport à la France, on est plutôt à 3%. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le spread, la marge avec l'Italie notamment, s'est resserré considérablement depuis quelques années. Et on a pu cette fragmentation, comme on a pu le connaître au cours de la crise de la dette souveraine dans le passé en zone euro, on a un écart de taux, par exemple, entre l'Allemagne et l'Italie qui est autour des 140 points de base. Finalement, c'est une marge qui est assez raisonnable. Alors, les élections européennes et toutes les discussions autour des budgets des États et de la zone euro vont peut-être remettre un petit peu le débat autour des niveaux de dette et va peut-être rebattre un petit peu les cartes sur ces niveaux de marge entre les États de la zone euro. Mais somme toute, c'est vrai qu'on est sur des taux qui sont beaucoup plus solides que par le passé. Je ne reviens pas à la crise de Lehman en 2008, mais c'est vrai qu'on a eu des niveaux de stress beaucoup plus élevés. Là, on compare vraiment les taux de la zone euro par rapport aux taux de la zone US, et on a cet écart qui est assez important, qui est assez matériel. Donc, c'est vrai que c'est symptomatique de ces politiques monétaires qu'on va avoir au cours des prochains mois.
Vous parlez de la faillite de Lehman, il y a aussi des inquiétudes. On peut comparer avec la crise de la dette en 2010-2011. Le FMI, cet après-midi, appelle à la modération budgétaire dans une année riche en élections. Est-ce qu'on n'est pas en train quand même de s'inquiéter de plus en plus sur le niveau de dette ? On en parle aux États-Unis, 1000 milliards de dollars de dette supplémentaires tous les 100 jours. En France, on voit bien, on est en plein dans le débat. Le gouvernement qui cherche des mesures d'économie, vu le dérapage budgétaire, ça devient à nouveau un sujet. Je ne sais pas qui veut répondre, mais...
Oui, c'est un sujet parce que si les taux montent, ça devient insoutenable. Et donc, il y a une espèce de boule de neige. Hein, en France, on paie autour de 51 fois 1. Nous, Français, les contribuables, on va payer 51 milliards. Il y a un budget de 51 milliards pour payer sur les intérêts de la dette. En 2027, on parle de 71 milliards. Donc, vous voyez, ça sera le budget de l'éducation nationale et peut-être de l'armée combinée qui arrive. Donc, ça coûte très, très cher. En revanche, ce qu'il faut quand même regarder, et moi, là où je mets un petit point un peu plus optimiste, c'est que ça coûte encore moins de 2 points de PIB d'intérêt de la dette. Ça nous coûtait beaucoup plus cher que ça en 95 quand on disait que l'État français était en faillite, etc., où on n'avait que 65% de dette sur PIB. Aujourd'hui, on a quasiment pas le double, mais on n'est pas loin de ça. Et finalement, ce qui compte, c'est le coût de la dette. Pour l'instant, ça va. Le problème du FMI, c'est, à mon avis, c'est pas tellement les pays développés, c'est les pays en développement, et là il y a des pays pour lesquels c'est 14 points de PIB les coûts d'intérêt de la dette. Et alors là, ces pays-là, il y a vraiment des risques de défaut, ce qui n'est pas du tout le cas des pays développés. Donc oui, c'est un sujet. Si les taux continuent à monter, c'est un sujet. Mais comme on pense que les taux vont baisser, faut raison garder.
Et puis évidemment, on a eu l'occasion de le dire, mais une quarantaine de pays qui ont des élections législatives ou présidentielles cette année dans le monde, c'est considérable. Et la tentation est grande d'ouvrir le chéquier.
Le cycle politique, voilà. On appelle ça en économie.
Merci beaucoup, Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Et merci à vous, Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions OPC chez OFI Invest Asset Management.